Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à tous. À l'occasion de la visite historique du président iranien Hassan Rouhani en Italie et en France, de sa rencontre avec le pape François au Vatican dans le cadre de ce grand retour de l'Iran sur la scène internationale, une question. Est-ce que cette ouverture diplomatique, motivée des deux côtés par des considérations économiques, pourra s'accompagner d'un assouplissement du régime théocratique en place depuis la révolution islamique de 1979? La première partie de notre émission va tenter de répondre à cette question avec nos invités, Nasser Etemadi de la rédaction Persane de RFI, puis avec Sophie Ménard, porte-parole des Baillis de France, et puis le témoignage d'une jeune femme iranienne. Nasser Etemadi, bonjour.
Bonjour.
L'Iran revient sur la scène internationale, c'est maintenant le temps de la normalisation. Que peut-on dire de la situation religieuse en Iran? Est-ce que ce poids du religieux est toujours aussi fort? Est-ce que l'on peut penser que, avec cette normalisation, eh bien, l'étau religieux va se desserrer?
En un mot, l'Iran vit ce que, en France, Marcel Gauchet appelle la sortie de la religion.
Vraiment?
Et vraiment. C'est un processus long, qui commence pas d'aujourd'hui. Et ce processus, il est en marche surtout dans une société majoritairement jeune, majoritairement urbanisée, et qui a accès, grâce à la révolution informatique, grâce à l'Internet, en fait, aux informations que le régime iranien essaye, c'est vrai, toujours, de censurer, de filtrer, comme on dit en Iran, et de barrer la route quant à l'accès libre à la circulation de l'information. Mais ce processus est en marche, et surtout dans une société, comme je disais il y a un instant, la grande majorité de la population est composée par les jeunes, et en particulier les femmes. Les femmes qui, malgré la répression, parce que bon, il s'agit toujours d'un régime religieux qui est en place, mais qui a une présence massive, surtout au niveau éducatif, au niveau culturel. Plus de 60% des sorties des universités en Iran, ce sont des femmes. J'ajouterais seulement que pour la première fois, le régime iranien est confronté à des problèmes très concrets. Très concrète, face auquel le discours religieux n'offre aucun remède à ce problème-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 5 millions de jeunes chômeurs diplômés. Selon les chiffres officiels, leur nombre s'élèvera d'ici 4 ans à plus de 11 millions, sans compter les autres chômeurs. Les villages ont perdu plus de 50% de leur population à cause de la sécheresse. Donc, il y a des problèmes de ceux qui sont aux marges de la société, et qui sont privés non seulement du travail, mais de l'éducation, de la santé, etc. Donc l'Iran aujourd'hui, c'est une accumulation des problèmes majeurs économiques et sociaux face auxquels le régime est confronté. Voilà.
C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, Nasser Etemadi, que l'Iran, c'est un peu l'URSS avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire en fait un pays qui va être, un régime qui va être obligé d'évoluer face à une situation économique, sociale?
Le régime est sous le poids des contraintes qui viennent d'en bas. Les gens, les jeunes en particulier, veulent aujourd'hui du travail. Ils veulent avoir accès à l'éducation. Ils veulent surtout jouir des libertés fondamentales, ne serait-ce que des libertés premières, les relations libres entre femmes et hommes, au niveau de mœurs, disons-le. Donc, tout cela, ce sont des revendications d'ailleurs majeures. Et face à tout cela, le régime iranien est en impasse. Le discours officiel du régime islamique tel qu'il s'est développé depuis l'avènement de la République islamique jusqu'à aujourd'hui, n'a aucune solution à donner.
Donc, c'est un discours obsolète. Hein.
C'est un discours obsolète aujourd'hui représenté par le guide en personne, qui a d'ailleurs été obligé, malgré cela, d'accepter qu'on ferme la boutique nucléaire et puis entrer en contact avec les Occidentaux pour la première fois depuis l'avènement de la Révolution islamique, entrer en négociation avec le grand Satan, les États-Unis, et cela durant des mois, et au sous de tout le monde, au vous de tout le monde, et en particulier les Iraniens au sein du pays. Vous voyez, les tabous sont tombés. Et ce discours, ces institutions, non seulement sont obsolètes, mais sont en quelque sorte, même si on ne voit pas d'apparence, sur un chemin de décomposition. Tôt ou tard, le régime doit accepter des changements radicaux, des réformes radicales sur le plan institutionnel, sinon il serait obligé de se frotter aux attentes et aux revendications très réelles et qui peuvent être à l'origine de mécontentements, des révoltes d'ici là. D'ailleurs, on le voit bien d'ici et là, même si ce ne sont pas organisés, même si ça manque de cohérence, de leadership, etc.
Est-ce que cela veut dire, Nasser Etemadi, que l'on va vers la fin de ce que l'on a appelé, peut-être d'ailleurs pas toujours très justement, la République des Mollahs ?
C'est trop tôt d'affirmer une telle chose.
Est-ce qu'on va vers ça ?
Moi, je pense que ce chemin, il est inévitable. Le régime iranien, s'il veut rester, il n'a pas d'autre choix que de suivre ce chemin qui est en fait d'accepter ce processus réel de sécularisation de politique, de mœurs et de pouvoir.
Est-ce que le régime peut se désislamiser ?
Le régime iranien n'est pas un tout cohérent. Il y a des fractions. Il y a des rivalités. Il y a aujourd'hui le guide qui est appuyé plus que jamais sur les groupes paramilitaires qui rappellent sous certains points la milice en France pendant l'occupation. Mais la majorité, la grande majorité de la société civile iranienne aujourd'hui est désireuse des réformes, des changements, de l'intégration de ce pays dans les relations internationales. D'ailleurs, ils l'ont montré à plusieurs reprises durant ces deux dernières décennies. D'abord par les deux élections successives de Khatami, puis par le mouvement d'hiver qui a précédé le printemps arabe, les mouvements populaires dans le pays arabe de quelques mois, mais qui avait des revendications démocratiques.
C'est ça,
qui...
cette révolution verte en marche a été bloquée.
Des millions de gens dans la rue, scandent et demandent la fin de la théocratie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce processus de la sortie de la religion, telle qu'elle est formulée en France par Marcel Gauchet, elle est réelle en Iran, et face à laquelle le régime iranien n'a pas beaucoup de solutions, sinon de l'accepter. L'Iran, après la fin de ce processus, n'aura rien à voir avec ce que nous constatons aujourd'hui sur tous les plans, et en particulier sur le plan religieux. Je dirais même plus loin, la démocratisation en Iran, la sécularisation en Iran sera le début des changements importants dans toute la région.
L'Iran, c'est un grand potentiel.
Un grand potentiel, et ça pourrait offrir une grande potentialité également au Proche et au Moyen-Orient.
Je vous remercie, Nasser Etemadi. Je rappelle que vous êtes journaliste à la section persane de RFI. Merci. Alors, le voyage du président iranien Hassan Rouhani en Italie et en France a suscité de nombreuses réactions de la part d'organisations des droits de l'homme et puis aussi des baillis. Alors, avec nous dans ce studio, Sophie Ménard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole des baillis de France. Et effectivement, vous nous avez envoyé un communiqué à l'occasion de ce voyage pour rappeler les discriminations, les persécutions dont sont victimes les baillis en Iran. Quelques mots sur cette communauté déjà née au Xe siècle.
Tout à fait, c'est une communauté donc assez importante en Iran. C'est une minorité, la plus importante minorité non musulmane en Iran et qui est née au XIXe siècle et qui a malheureusement toujours subi des persécutions. C'est vrai qu'elles se sont amplifiées, ça a pris toute autre nature avec la révolution islamique.
Alors, à peu près 300 000, c'est le chiffre,
oui.
Mais bon, le chiffre n'est probablement pas exact puisqu'il est très difficile de les recenser.
Il est impossible de recenser le nombre de baillis en Iran. Pour les raisons qu'on va expliquer par ailleurs. Effectivement, c'est des chiffres, un chiffre qui a été donné officiellement au cours des années 2000, mais nous, par la République, mais nous sommes tout à fait conscients qu'il y a beaucoup plus de baillis en Iran.
Et dans le monde, à peu près 7 millions.
7 millions, tout à fait. C'est une religion qui est mondiale, indépendante et qui est étonnamment bien qu'elle ne soit pas très connue, la religion la plus géographiquement, la deuxième religion, pardon, la plus géographiquement répandue à travers le monde.
La spiritualité bahaï.
Alors, elle peut se résumer en un mot. Oui. C'est fondamentalement la promotion de l'unité de l'humanité, mais pas comme un vœu pieux, comme une aspiration, comme un principe certainement fondamental, mais surtout comme un travail. C'est une spiritualité du quotidien. L'individu et la collectivité doivent travailler pour et se transformer pour arriver à cette unité de l'humanité.
En tous les cas, les bahais dérangent les mollahs, hein, dérangent le chiisme d'aujourd'hui. Je crois que d'une certaine façon, le bahaïsme a toujours dérangé, mais encore plus aujourd'hui. Alors, sous quelle manifestation ces persécutions ont-elles lieu?
Alors, c'est vrai que c'est une persécution méthodique, systématique, intentionnelle, organisée par l'État, les autorités religieuses en Iran. Donc, on se place à un niveau vraiment très élevé dans la nature de ces persécutions. Ce ne sont pas que des faits disparates, c'est une persécution quotidienne. Et la multiplicité de ces persécutions peut presque se résumer, si vous voulez, cela commence au berceau jusqu'à la tombe. Et on passe par là par des arrestations arbitraires, par une pression économique très féroce, par des interdictions multiples et variées, et surtout à l'éducation supérieure, par la destruction proprement dite des cimetières bahaïs, et ce, il y en a beaucoup, et ce pendant la présidence de Rouhani, par une incitation à la haine dans les médias, à travers des circulaires, des brochures sur le web, des sites, des séries télévisées, qui incitent non seulement à la haine, mais à la diabolisation et à la violence. C'est-à-dire que, en 2014, dans la ville de Yazd, on prétendait, sur des brochures distribuées dans toute la ville, que le des bahaïs ne vaut rien. Et ce qu'il faut comprendre dans ce programme d'institutionnalisation de ces persécutions, c'est que le régime et le guide suprême a signé un document, et c'est authentifié par les Nations Unies, un document, un mémorandum qui fait état de la volonté de bloquer le développement des bahaïs en Iran et qu'ils restent illettrés et sans instruction, n'ayant aucune fonction haute élevée dans la société. Donc c'est une vraie politique. Et puis je termine avec le fait que il y a des budgets de l'État qui sont au niveau national ou provincial dédiés à ces persécutions. Donc ils veulent être le plus en plus professionnels et ciblés dans cette volonté de toucher et de bloquer, pour ne pas dire autre chose, la vie de la communauté bahaïe en Iran.
Vous avez régulièrement alerté l'opinion, Sophie Ménard, en tant que porte-parole des bahaïs de France, sur la situation de 7 prisonniers. Alors, des prisonniers de tous les âges, il y a même un prisonnier extrêmement âgé, donc des prisonniers bahaïs.
Tout à fait. Donc, les arrestations et l'emprisonnement des bahaïs, c'est un lot quotidien. Il y en a 7, c'était les membres dirigeants, en fait, de la communauté bahaï en Iran, qui ont été arrêtés, effectivement, il y a plus de 7 ans. Comme vous l'avez souligné, effectivement, le plus âgé a 80 ans. Et il faut souligner dans ce rapport aux prisonniers, et on n'a pas le temps, mais juste faire l'état du droit des prisonniers qui n'est absolument pas reconnu et respecté. Par exemple, ils ont été un an et demi en détention provisoire, sans aucune idée de ce qui allait se passer en tant que procès. Mais détention provisoire en Iran, c'est-à-dire une cellule fermée, très petite, sans aération, sans lit, sans conditions naturelles pour vivre dignement.
Le soutien de la France sur les questions bahaïs.
Nous sommes très conscients que le soutien international est le seul rempart, la seule défense possible pour ces bahaïs qui ne peuvent pas se défendre en Iran. Donc nous sommes très reconnaissant du soutien de la France en tant qu'État aux résolutions des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères rappelle régulièrement dans des communiqués le soutien de la France qui protège cette minorité bahaï en Iran. Et puis nous sommes particulièrement touchés, nous pouvons le dire, par cette dernière année où une amicale parlementaire transpartisane a été créée pour soutenir les bahaïs. Et donc cette amicale a vraiment un intérêt pour nous, c'est une caisse de résonance pour faire connaître cette situation, parce qu'à ce jour, nous ne la connaissons pas assez.
Merci Sophie Ménard. Alors vous êtes venue dans ce studio avec une jeune femme iranienne d'une trentaine d'années, dont je ne peux pas donner le nom parce qu'elle va repartir en Iran dans quelques temps. Elle est baïe et elle a déjà suffisamment, pâti de sa foi baïe pour ne pas en rajouter, si je puis dire. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, puisque depuis l'âge de 4 ans, en fait, vous subissez votre condition de baïe. Il y a ce père, qui était un ingénieur de haut niveau, qui n'a quasiment pas pu exercer sa profession parce que baïe.
Je suis née en Iran dans une famille baïe. Quelques mois après ma naissance, mes parents ont été expulsés de leur travail en raison de leur croyance étant
baïe.
Mon père a dû voyager à travers le pays dans beaucoup de différentes villes pour trouver du travail, mais finalement il s'est installé à Téhéran. Peu de temps après, il a été arrêté à Téhéran même, à cette époque, et justement parce qu'il était baïe à cause de sa croyance. Quand ils ont arrêté en fait mon père, ma mère et moi ne savions pas ce qu'il était arrivé à mon père, et ni même où il l'avait emmené. Et pendant un mois, on n'avait aucune nouvelle de lui. Finalement, on a découvert après un mois la prison dans laquelle il se trouvait. On est allé rendre visite. Et quand nous sommes allés immédiatement lui rendre visite, pendant cette même visite, moi et ma mère, nous avons été arrêtés. Après 2 semaines, ils ont libéré ma mère et moi. Le même jour, mon père a été donc amené à la cour et il a été condamné à 5 ans de prison.
Aujourd'hui, vous avez 34 ans. Combien d'années vous avez connu votre père en prison ?
Donc en total, mon père a été 7 ans en prison. La première fois pour 3 ans et la deuxième fois pour 4 ans.
Est-ce que vous avez pu faire des études normales, c'est-à-dire accéder à l'université ? Car je sais que c'est la grande question pour les jeunes baïs. Ils n'ont quasiment pas accès à l'université.
Et en fait, j'ai fait mes études dans l'Institut Bahá'í d'enseignement supérieur. Cet institut a été mis en place par la communauté Bahá'í d'Iran pour surmonter en fait cette discrimination que les jeunes Bahá'í d'Iran ont à faire face. Mais il y avait toujours une inquiétude permanente que le programme puisse être arrêté, par exemple par l'arrestation de ses professeurs.
Toujours la peur.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pensez que, justement, le retour de l'Iran sur la scène internationale, est-ce que ça va pouvoir changer quelque chose en Iran ? Est-ce que ça va pouvoir modifier la dureté du régime à l'égard notamment des minorités religieuses ?
En fait, j'espère qu'il y aura un changement dans le futur, mais... ce que je peux dire, c'est que durant la présidence de M. Rouhani, j'ai vu aucun changement.
Nasser Etemadi, que l'on a entendu au tout début de cette émission, disait précisément qu'il y avait tellement de problèmes économiques en Iran, et puis que cette jeunesse était tellement assoiffée d'une vie nouvelle, d'une vie desserrée sur beaucoup de plans, que ça allait changer. Est-ce que vous pensez effectivement que la force de la jeunesse sera supérieure à la rigidité, si je puis dire, des oulémas, du clergé religieux, quoi, qui est impliqué dans la politique ?
J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et je suis plein d'espoir pour les jeunes, mais je pense que tous mes compatriotes vont travailler pour la prospérité de l'Iran.
Est-ce que vous avez eu la tentation de ne plus être baï pour vivre mieux ?
Je suis fière d'être Bahá'í et malgré le fait que j'ai subi beaucoup de persécutions, moi et ma famille, cela ne m'a jamais empêché d'aimer l'Iran, d'aimer mes compatriotes et de tout cœur j'ai envie de servir mon pays et travailler pour sa prospérité.
Je vous remercie. Merci à vous. Firouzeh Nadiri d'avoir traduit ce témoignage. Et puis merci à vous, Sophie Ménard. Je rappelle que vous êtes la porte-parole des baillis de France. On se retrouve après le flash. Restez à l'écoute de RFI.
Géopolitique, le débat.